Ravi de vous retrouver et merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Il est 18h et c'est parti pour votre émission humanitaire Faboudirène. Faboudirène qui veut dire en langue peul solidarité. Voici les titres. Sur des sites de déplacés, des femmes alertent pour une meilleure prise en charge pendant la grossesse.
Que vaut un suivi médical d'une grossesse? Madame Djuma Diawara, sage-femme à l'Office national de la santé de la reproduction, nous donnera sa prescription.
Nous irons ensuite à Koutiala pour découvrir ce modèle de réussite parmi les personnes déplacées internes. Et elle se nomme Mariam Bari et vit à Koutiala depuis plus de 6 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la présentation de cette demi-heure d'information. Hamsetou Gogo Touré et Mariam Maïga. La technique est assurée par Philly Dambélé. Alors Mariam, comment se passe le week-end ?
Ben, on dira que c'est dimanche au boulot et non dimanche à Bamako. Parce qu'on sait quand même que les dimanches à Bamako, c'est jour de mariage pour beaucoup et jour de repos aussi. Hein.
Alors Mariam, comme annoncé dans le sommaire, notre sujet phare du jour, femmes déplacées et prises en charge des grossesses.
Oui, sur les sites des déplacés, il est fréquent de rencontrer des femmes portant une grossesse.
Et pour la plupart des cas, la prise en charge de ces femmes en début de grossesse jusqu'à l'accouchement reste difficile, selon certaines.
Face à cette situation, elle lance un cri de cœur aux autorités, aux ONG et aux personnes de bonne volonté à les secourir pendant ce processus.
Pour plus de précisions, écoutons donc ce reportage réalisé par Khalifa Goïta avec l'appui de nos correspondants.
Fanta Sangare est une femme déplacée et installée à Tomina, et cela depuis quelque temps. Comme elle, plusieurs autres femmes ont fui les attaques des hommes armés dans la région de Mopti. Selon elle, la prise en charge de ces femmes enceintes n'est pas du tout facile. Fanta Sangare nous relate le vécu d'une de ses connaissances.
C'est à cause de l'insécurité que nous sommes ici. On a passé quelques temps à Tomina. Après 4 jours, on nous a envoyés à Koutiala. Là-bas également, après 7 jours, c'était compliqué. Mais ma sœur a quand même pu accoucher. Et ensuite, on est retourné à Tomina. Quelques jours après, le nouveau-né a perdu la vie, des suites d'une fièvre. Aujourd'hui, la maman se porte bien. Toutes les ordonnances payées étaient à notre charge. Nous avons vraiment besoin de beaucoup d'aide dans ces moments cruciaux de notre vie.
À Yoroso, dans la région de Koutiala, à Setou Djibo, une déplacée interne explique qu'elle se bat tant bien que mal pour assurer les frais de prise en charge de la grossesse. Et cela malgré l'accompagnement de son mari.
Je suis du pays d'Ogon, notamment dans le cercle de Bankas. Je n'ai pas reçu de l'aide. Toutes les ordonnances, c'est moi qui m'en charge. Les difficultés sont énormes. Parfois, je suis obligée d'aller dans la ville de Yoroso pour faire la lessive afin de pouvoir subvenir à nos besoins. Ce qui est encore plus dur est lorsque tu te rends dans un centre de santé, on te prescrit beaucoup d'ordonnances. Ce n'est pas facile de les payer. Nous sommes aussi des Maliennes. L'aide des autorités nous fera vraiment plaisir.
L'assistance des ONG dans la prise en charge des femmes enceintes sur les sites de déplacés dans la commune de Sebougou, région de Ségou, occupe une place importante. Cependant, le responsable du site, Mohamed Sissé, souligne quelques difficultés.
Les ONG comme la Croix-Rouge et Terre des Hommes nous appuient beaucoup dans la prise en charge des femmes enceintes, notamment les consultations prénatales et l'achat des médicaments. Le problème majeur est le manque de moyens de transport pour amener les femmes dans les structures de santé pour l'accouchement. Comme nous sommes un peu loin de la route principale. Dans de telles situations, généralement, nous envoyons une personne chercher des taxis ou mototaxis au bord de la route. Nous avons informé les ONG sur la situation. Nous sommes dans l'attente d'une suite favorable.
La prise en charge des femmes enceintes sur les sites des déplacés à Banyangara ressort de leurs propres moyens, selon Kadia Djibo, une des femmes déplacées de Monombondo. Mais elle ajoute que des ONG les aident souvent dans ce cadre.
Nous faisons nos accouchements dans les centres de santé. Et pour les consultations prénatales, certaines ONG nous accompagnent. Souvent aussi, pour avoir les médicaments dans les CESCOM est difficile.
Voyons à présent comment la situation se présente à Bamako. Écoutons la réaction de Assitan Diabaté, agent à la Direction nationale de développement social. Elle est chargée de la santé des sites des déplacés à Bamako.
En général, nous n'avons pas un système spécifique par rapport à la prise en charge médicale des femmes enceintes. Normalement, les maris de ces femmes-là qui doivent s'en charger, sauf que ces maris-là n'ont pas d'activité génératrice de revenus. C'est très difficile puisque la grossesse, d'abord, ça affaiblit la femme. Ça nécessite beaucoup de dépenses. En ce moment, la femme a vraiment besoin de soutien.
Selon Assitan Diabaté, la Direction nationale du développement social déploie tous les moyens pour soulager cette catégorie de personnes dans ces endroits, même si les difficultés sont fréquentes.
Nous cherchons l'aide des partenaires. C'est pourquoi s'il y a des cas d'urgence, on les appelle de temps en temps pour qu'ils nous aident à rembourser certaines ordonnances déjà payées. Mais avec ça aussi, il y a des difficultés. S'il faut que la personne paye d'abord les ordonnances avant d'être remboursée, la SACO de Sogonico nous appuie beaucoup aux consultations prénatales. Mais toujours, le besoin est là par rapport à l'achat des médicaments, par rapport aux analyses. On n'a pas un moyen pour amener ces gens-là, les dames enceintes, vers les Pour les femmes du centre Mabilé, là, il y a moins de soucis puisqu'ils sont proches du centre de santé. Mais pour déplacer des Sénou, par exemple, c'est compliqué.
Tous ces acteurs intervenus souhaitent et demandent au gouvernement et ses partenaires ainsi que les personnes de bonne volonté de faciliter la prise en charge des femmes enceintes.
Alors, Mariam, tu viens d'écouter ce reportage de Khalifa Goïda.
Effectivement, ça fait froid dans le dos. Elles subissent déjà les traumas de la crise sécuritaire parce que ce sont des rescapés, Hamsetou, de conflits, d'attaques. Elles sont sur un nouveau site pour un nouveau départ. Et voilà également que des femmes sont confrontées à ce problème-là. Donner la vie ne doit pas ressembler à cela, à mon avis.
Exactement, Mariam. Et pour comprendre l'importance du suivi de la grossesse, notre reporter Imrena Kilumeiga a échangé avec Madame Djuma Diawara, sage-femme, à l'Office national de la santé de la reproduction.
Et selon la spécialiste Hamsetou, l'absence de suivi et de prise en charge tout au long de la grossesse entraîne des risques pour la femme, mais aussi pour son bébé.
Madame Djuma Diawara répond aux questions de Imrena Kilumeiga.
Une femme enceinte doit faire sa consultation prénatale pour une bonne prise en charge d'elle-même et de son nouveau-né, pour prévenir les maladies éventuelles qui peuvent survenir au cours de la grossesse et les maladies qui peuvent survenir chez le nouveau-né aussi. Il y a des cadres. Il y a pour le bien-être de la maman et pour que l'enfant soit né dans les bonnes conditions.
Comment se passe-t-elle la consultation prénatale?
Bon, la consultation prénatale, tout au début, la dame vient au centre pour se faire consulter. On doit prendre ses paramètres d'abord. Donc, après, si l'agent de santé prend ses paramètres, l'agent de santé va voir si elle présente des signes de danger ou pas. Et s'il y a des signes de danger, l'agent de santé va leur donner des médicaments. Et il y a le traitement curatif et il y a le traitement préventif. Le traitement préventif, c'est le VAT, lui donner du fer, acide folique. Et il y a SP, sulfate périmétamine que la dame doit prendre chaque mois à partir du 13e semaine.
Quand vous parlez de paramètres, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bon, les paramètres, c'est la TA. La TA, c'est la tension artérielle, le pouls, la hauteur utérine et qu'on doit mesurer. Et on doit voir aussi l'état du fœtus.
Vous avez parlé de danger. Existe-t-il des signes de danger qui sont reconnus?
Oui, il y a des signes de danger qu'on dit aux femmes de venir à l'hôpital en cas de la présence de ces signes et qu'on a cité précédemment. On a la difficulté respiratoire. Et en cas de difficulté respiratoire, la dame doit venir au centre obligatoirement et en cas de perte de connaissance aussi. Et il y a des saignements vaginaux en début de la grossesse ou pendant la grossesse en fin de grossesse. Il y a des convulsions et il y a des pertes de connaissance aussi. Il y a la fièvre et il y a des douleurs abdominales. En cas de ces signes-là, la dame doit venir au centre.
Quand doit-on faire un premier suivi de grossesse?
Bon, le premier suivi de grossesse, on doit commencer à 13 semaines. Bon, apparemment, on dit aux femmes que si elles n'ont pas vu leurs règles de venir se faire consulter, si la consultation montre qu'elles sont enceintes, elles peuvent commencer la CPN.
Quels sont les bienfaits du suivi de la grossesse pour la femme et pour l'enfant également?
Et les bienfaits de la CPN pour la femme et pour l'enfant, c'est pour que la femme reste en bonne santé et soit maintenu, doit être maintenu en bonne santé. Parce que j'ai dit que la CPN, là, c'est pour le traitement curatif et préventif. Et donc, pour que l'enfant aussi doit être né dans les bonnes conditions. Donc, on doit maintenir la femme en bonne santé pour que l'enfant aussi soit né dans les bonnes conditions.
Un suivi de grossesse non régulier a-t-il des conséquences?
Oui, un suivi de grossesse non régulier a des conséquences.
Lesquelles?
Par exemple, si la femme n'est pas bien suivie, et peut-être qu'elle peut développer certains signes de danger à la maison qui peuvent subvenir à la vie de l'enfant. Donc la femme doit suivre les consultations périnatales pour éviter certaines maladies et pour prévenir aussi certaines maladies.
Existe-t-il un certain nombre de visites de grossesse à faire?
Oui, normalement, la femme enceinte doit venir au centre de santé au moins 8 fois pendant sa grossesse et faire au moins 4 consultations périnatales.
Ces 8 visites, il s'agit de faire quoi, par exemple?
Bon, dans ces visites, il y a des échos à faire, il y a des analyses, il y a des consultations qu'on doit faire. Et il y a tout un programme qui doit être suivi au cours de la grossesse, qui est décalé entre les différents trimestres de la grossesse.
Sont-elles toutes obligatoires?
Oui.
Pourquoi?
Oui, c'est pour le bien-être de la femme et de son nouveau-né. C'est obligatoire parce qu'à chaque trimestre, il y a des visites à faire, il y a des paramètres à prendre, il y a des médicaments aussi qu'on peut donner en cas de maladie ou autre. Et il y a des maladies aussi qui peuvent survenir dans certains trimestres.
Quels conseils prodiguez-vous alors dans ce cas, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde?
Bon, je dirais aux femmes que de prendre ça au sérieux, la consultation prénatale, de respecter le calendrier de la consultation prénatale. Et que c'est très important pour eux et pour le nouveau-né. Et je dis aux hommes aussi de soutenir leurs femmes quand elles sont enceintes pour les amener au centre de santé pour leur consultation prénatale.
Parlons un peu d'actualité à présent dans le cercle de Massina, région de Ségou. Plus de 17 000 personnes déplacées internes, dont 2 000 enfants, font face à une crise alimentaire due à l'insécurité.
Malgré l'assistance de certaines ONG, les difficultés sont nombreuses. Les déplacés interpellent les autorités pour faciliter leur retour au bercail.
Nous écoutons ici l'un des déplacés de Massina au micro de notre correspondant Sékou Abdoul Kader Traoré.
Les djihadistes nous ont demandé de négocier avec eux, mais notre village n'a pas accepté. Après ce refus de négocier, ils ont mis une forte pression sur le village en chassant les gens du village. C'est ainsi qu'on est arrivé à Massina. Quand nous sommes arrivés ici, les ONG nous ont aidés avec des vivres et non-vivres. Mais ces aides sont insuffisantes. Sur le plan sanitaire, les médecins viennent donner des médicaments, mais notre plus grand souhait est de retourner au village.
Quittons Ségou à présent pour la nouvelle région de Koutiala. La ville accueille également de milliers de personnes déplacées.
Oui, Mariam, seul le travail libère l'homme a-t-on l'habitude d'entendre. Oui, de nombreuses personnes sur les sites des déplacés internes ont bien compris cette affirmation.
Et c'est ce qui se passe dans la localité de Koutiala. Certaines d'entre elles, depuis leur arrivée sur ces lieux, s'adonnent à des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ces activités sont importantes dans la vie de ces personnes.
À la découverte de ce modèle de réussite à Koutiala, dans ce reportage de Khalifa Goïta, avec le concours de notre correspondant David Koulibaly.
Mariam Bari a quitté son village de Toroli dans le cercle de Koro à cause de l'insécurité en 2017. Elle a trouvé refuge à Sinzina, l'une des 36 communes de Koutiala. Dès son arrivée dans la capitale de l'or blanc, la déplacée interne s'est vite fixée des ambitions dans le commerce, malgré un état d'esprit triste. De nos jours, on peut dire sans risque de se tromper qu'elle gagne bien sa vie.
Je suis venue ici à cause de la guerre. Je n'avais pas de moyens. J'ai d'abord commencé par la vente du lait. C'est ainsi que je me suis débrouillée à faire aussi la vente du savon, les pommades et les légumes. J'en bénéficie beaucoup. Cette activité me permet de satisfaire à mes besoins, également d'assurer les petites dépenses de mes enfants, comme les frais de scolarité.
Comme tout travail, notre interlocutrice évoque certaines difficultés dans ses occupations, mais elle ne se décourage pas.
Il Il y a beaucoup de difficultés parce que ce genre d'activité a besoin de fonds. Au début, je prenais les articles avec d'autres personnes pour les revendre dans le but d'avoir quelque chose en fin de journée. Souvent, c'est compliqué et tout le monde n'accepte pas cette méthode. Mais aujourd'hui, Dieu merci, je peux faire des achats et revendre sans m'endetter.
À longueur de journée, Mariam découvre de nouveaux clients. La plupart d'entre eux apprécient son engagement. Pour ceci, elle est à encourager.
J'apprécie beaucoup Mariam. Si tous les déplacés se comportent comme elle, ça peut beaucoup les aider. Ses activités sont rentables. Elle est très courageuse et accueillante. Je pense qu'elle peut faire mieux encore avec son courage.
Elle nous a toujours respectés depuis qu'elle a commencé ce travail. Elle n'a vraiment pas de problème. Toutes les femmes peuvent s'inspirer de son cas.
Le parcours a permis à Mariam Barry d'en tirer des leçons de vie. Elle lance un appel à toutes les femmes qui vivent sur le site de déplacés internes de ne pas baisser les bras.
Malgré que nous soyons des déplacés, nous devons travailler. C'est vrai, nous sommes aidés par les ONG, mais cela reste temporaire. Nous devons en profiter pour réaliser quelque chose. J'appelle tout le monde et surtout les femmes déplacées au travail. Nous voulons retourner si la situation sécuritaire s'améliore. On ne peut rien dire de grave à ces personnes qui nous ont accueillis, mais on aime le lieu qui nous a vu naître et grandir.
Comme disait l'écrivain ivoirien Bernard B. Dadjé, le travail assure l'indépendance. Alors travaillons d'arrache-pied, peu importe notre rang social.
Alors Mariam, tu viens d'écouter ton homonyme, hein?
En tout cas, c'est une vraie Mariam, une vraie combattante. En tout
les
cas,
Mariam
vient
sont
de...
des battantes.
Vraiment, tu viens de le dire. Elle vient de montrer qu'elle est une déplacée, mais qui joue à la résilience aujourd'hui, qui se démène malgré les traumas, malgré tout ce qu'elle a vécu sur le chemin. Parce qu'imaginez-vous quitter le centre du pays, la région de Badjangara, pour venir se retrouver à Koutiala et essayer de mener une activité pour s'en sortir. Elle vient de montrer qu'elle ne s'assoit pas pour attendre les dons, les aides pour vivre elle-même. Elle se lève aujourd'hui pour travailler, pour nourrir sa famille. Et c'est un exemple, un bel exemple à suivre.
Et je rappelle que vous suivez Studio Tamani à travers nos 85 radios partenaires et sur nos différentes plateformes. Merci à vous et nous allons souffler un peu en musique. Et c'est la rubrique artiste de la semaine. Nous sommes avec qui cette semaine, Marianne?
C'est tout, je n'ai pas déniché ce talent. C'est notre reporter Kwan Jara qui est parti nous le chercher. Il fait du rap et appartient à cette jeune génération. Il se nomme Jacques Jara, communément appelé Tony Gang. Avec le rap, le jeune rappeur explique qu'il cherche à conscientiser les jeunes et leur pousser vers le travail.
Bon, depuis tout petit, le mois qu'on était au village, j'écoutais la musique, le rap. J'écoutais vraiment le rap, quoi. Mais en ce moment, je ne savais pas comment est-ce qu'on doit même ça y chanter. En tout cas, j'aimais vraiment la musique. Mais en ce moment, je ne savais pas comment ça y rentrer au studio pour faire un son. Mais avec l'école, on est arrivé à 100. C'est là-bas que j'ai commencé maintenant à rentrer dans le studio pour faire un son.
Ah, c'est à partir de la ville de 100 que vous avez commencé à produire. Vous êtes rentré dans le studio, vous avez produit des sons, des musiques. Alors, quel type de musique vous faites? Est-ce que vous êtes allé seul dans le studio ou bien vous vous êtes fait accompagner pour faire des sons?
Bon, au début, on était trois. Comme c'était un grain, on était trois. Notre premier son, même, on était trois dans les chants. Mais maintenant, comme les autres, on n'est plus ensemble. Avec l'école, on est séparés. On n'est plus ensemble. Moi, je suis seul. Je suis maintenant ici. Bon, je fais mes trucs à part. Les autres aussi font leurs trucs à part. Les sons à part, quoi. Exactement, non.
D'accord. Est-ce que Tony Gang, aujourd'hui, a fait des sons seul? Est-ce que tu as produit des musiques toi seul aujourd'hui?
Ouais, j'ai produit des musiques seul. Même au début de la transition, j'ai fait un son sur la transition. C'est sur mon compte YouTube. J'ai fait un son sur Assimi Guita. Ouais, j'ai produit des sons seul.
Et dans vos sons, vous avez parlé tout de suite de la transition. En dehors de la transition, quels sont les autres thèmes que vous abordez dans la musique? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'éducation? Vous parlez de quoi parfois dans votre musique?
Je chante des musiques d'amour, Ça fait pas longtemps que j'ai fait sortir une musique consciente qui éduque les enfants, montre aux enfants que c'est le travail ça y est, qui libère l'homme. Si tu écoutes bien la musique, ça y est, la musique te pousse à travailler et te montrer ça y est, que la vie, ça y est, on ne doit pas baisser les bras.
D'accord. Vous dites que dans cette musique, vous sentez un peu... Vous encouragez les autres à travailler. En dehors de la musique, en dehors de l'école, est-ce que tu fais autre travail? Est-ce que tu fais d'autres activités qui te permettent de subvenir à tes besoins?
On fait tout, hein.
Oui.
Ce qui peut, ça y est, nous donner un peu de... Un peu, on est dedans. Sauf le malheur. Tout ce qui est bien, qui peut nous donner quand même quelque chose à manger,
ouais,
d'une façon, qui peut survenir aussi à nos besoins. Donc, on est dedans.
D'accord, tel que quoi?
Ouais, bon, moi, comme je suis étudiant, si on ne part pas à l'école, j'accompagne des fois les manchons pour être en manœuvre. Maintenant aussi, dans le pays, on a une moto qui permet aux gens de se déplacer, ça y est, rapidement. On appelle Tilmani. Aussi, j'ai acheté un. J'essaie aussi de travailler avec ça pour survenir aussi à mes petites besoins, quoi.
D'accord. Revenons à la musique. Vous parlez d'amour parfois, de djarabi.
Ouais.
Est-ce que tu as fait une musique qui parle d'amour dans tes sons?
Ouais.
Dites-nous, qu'est-ce que vous dites dans cette musique-là? Faites-nous découvrir un peu ce que vous dites dans cette musique-là.
Dans la musique, réellement, ça y est, je parle d'une fille ça y est, qui essaye de plaquer un gars d'une façon. Donc, j'essaie de lui dire que ça y est, dans l'amour, il faut essayer de se comprendre. Donc, ça y est, l'essentiel, c'est la compréhension dans l'amour, quoi.
Faites-nous découvrir un peu, chantez-nous un peu, en quelques secondes, ce que vous chantez dans cette musique.
Réellement, la musique, quand même, c'est en bambara.
Oh non, c'est ça, c'est pas bambara. Non, ouais, non, faites-nous voir.
Kanake, baby, kanake, inabe delila kanake. Baby, kanake, I love you, kanake. Baby, kanake. Oh, 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 kanake, baby, kanake. Bon, tu vois, ça, c'est le refrain, quoi. C'est... Si on rentre un peu dans le couplet aussi, bon,
d'accord,
tu vas voir que c'est...
D'accord, baby, kanake, merci beaucoup pour de nous faire découvrir un peu une partie de ta musique. En dehors de tout ça, est-ce que, en tant que jeune artiste, étudiant, est-ce que tu as des projets dans la musique? Est-ce que tu veux faire d'autres projets pour aller de l'avant dans ce milieu d'artiste chanteur?
Réellement, j'ai des projets dans la musique. J'ai des projets, mais le problème est qu'actuellement, il manque un peu de moyens. Sinon, vraiment, j'ai des projets.
Tel que quoi? Vous voulez réaliser? Quels sont vos projets? Tu veux réaliser quoi, par exemple, comme projet?
Par exemple, comme là où je suis, maintenant, je veux créer même un studio que je vais amener au village. Donc, ça permet aussi à mes frères de découvrir la musique. Et puis, j'ai aussi envie de créer un label là-bas aussi dans les jours à venir.
Merci beaucoup, monsieur Jacques Di Tonigang, de nous avoir accordé cet entretien.
Mariam, c'est à l'instant Tony Gang. J'espère que...
Ah, moi-même, je ne sais pas. C'est Tony Gang, c'est Tony Gang. Ah, en tout cas, je ne sais pas. Parce que le mot, là, essayer de le prononcer, c'est un
gangsta,
peu compliqué.
Gangsta, voilà.
Voilà.
Plusieurs artistes le disent, Mariam, la musique est une thérapie. Et merci à Tony Gang. Les principaux thèmes évoqués dans ses musiques portent sur le travail et l'amour. En plus de la musique, le jeune musicien fait d'autres activités pour subvenir à ses besoins. Un bon exemple à suivre.
Effectivement.
On arrive à présent à la dernière rubrique de cette semaine. Vous l'avez compris, la rubrique proverbe. De quoi parle notre proverbe de la semaine, Mariam?
Notre proverbe du jour nous dit « Être enceinte, c'est le seul moment dans une vie où tu es autorisé à crier, pleurer et avoir des sautes d'humeur sans que personne ne te le reproche. » Tu en penses quoi, Amsatou?
Bon.
Ou bien c'est parce que tu n'as pas connu d'avoir ce moment-là.
Qui t'a dit que je n'ai pas connu?
Ah non. Eh non, tu n'oseras pas. Tu n'as pas encore connu ce moment. En tout cas, moi, je sais que je suis passée par là et je sais également qu'il y a une part de vérité dedans. Hein, parce que durant cette période-là, tout est permis. tout est permis. Des envies de dernière minute, les gens sont obligés d'être aux pétitions pour toi. Et surtout, plus la grossesse avance, plus on essaie de t'amadouiller, de te cerner un tout petit peu. C'est une bonne période, hein?
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, nous allons prendre aussi l'avis du sociologue Guimba Akiabou sur le proverbe. Il réagit ici au micro de Kouandiara.
Être enceinte, c'est le moment dans une vie où tu es autorisé à crier. Parce que crier pourquoi? Aujourd'hui, une femme crie dans n'importe quelle situation, la femme est autorisée à crier. Au moment où elle est autorisée, où on peut avoir la compassion pour la femme, elle se trouve dans un état de grossesse. C'est le moment où elle se trouve dans un état de grossesse. Donc, elle est autorisée à crier, on a la compassion, on partage la même douleur qu'elle, voilà, on s'inquiète d'elle. Ça, ce sont des aspects, des éléments qui relèvent même de l'aspect social. Ensuite, elle peut pleurer, avoir des sortes d'humeurs sans que personne ne le reproche. Donc, on ne peut pas le reprocher parce qu'elle trouve déjà elle se retrouve dans une situation, dans une posture où elle fait face maintenant aux aléas même de la nature. Donc, c'est une punition divine. Elle doit la subir obligatoirement.
Ainsi prend fin cette émission qui vous a été présentée par Hamsitou Touré et Mariam Maïga. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure et sur la même fréquence. Vous pouvez réécouter cette production à tout moment sur notre site web au www.studiotamani.org.
À Studio Tamani, la bonne information est également une manière d'aider la population. Merci donc à vous pour votre constante fidélité.
En conclusion, vous l'aurez compris, un bon suivi de grossesse est bénéfique et pour l'enfant et pour la maman.
Et l'absence de suivi pendant la grossesse peut être fatale.
On peut être déplacé, se créer son activité génératrice de revenus. C'est le cas de Mariam Barry à Koutiala. Malgré son statut de déplacé, elle a su s'intégrer et créer son entreprise. Merci à vous auditeurs et auditrices. Merci à toi également Mariam pour ce temps de partage. Mais ne décrochez pas car tout à l'heure vous aurez la version en Bambara. Bye.